Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie pour l'émission 3 en 1 et on est en direct sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale de Canal B. Il est midi 15 et nous sommes mercredi 6 mai ou jeudi 7 si vous nous écoutez en rediff. Au sommaire de cette édition, je suis accompagnée de Valentine, Manon et Nina. Bonjour à vous.
Bonjour. Salut Julie.
C'est elles qui ont préparé les différents formats que vous entendrez pendant les 30 prochaines minutes. Valentine, dans l'interview du jour, tu t'entretiendras avec Camille Robert, chargée d'exposition à la salle instantanée, ici au 360.
Tout à fait, et allez avec nous en plateau. Camille, tu vas nous expliquer comment tes choix en tant que chargée d'exposition participent à la création de l'identité d'un lieu culturel comme la salle de l'instantanée.
Et pour la deuxième partie de l'émission, on reste dans le domaine de la culture. Manon, tu allais voir l'adaptation du roman « À la ligne » de Joseph Pontus.
Exactement, dans la continuité du 1er mai, cette représentation met en scène la vie de travailleur de Joseph Pontus, sa vie d'intérimaire dans des usines agroalimentaires, et c'est ce roman qui a été adapté dans une réalisation théâtrale signée Mathieu Létuvé.
Et ce sera donc une chronique à retrouver en fin d'émission, aux alentours de 12h40. Mais avant de commencer avec notre invité, je crois qu'on va parler un peu politique locale.
Oui, je suis désolée Julie, on va devoir parler d'un sujet chiant ce midi.
Oh non.
Si, et en plus c'est ton sujet préféré.
Me dis pas que tu vas encore parler du sage.
Je te promets que cette fois-ci ce sera plus croustillant que les fois d'avant.
Ok, bon bah vas-y, qu'est-ce qui se passe encore avec le sage ?
Vous vous souvenez qu'on en avait parlé au début de la saison en octobre ou novembre ?
Oui, à ce moment-là, on avait parlé de l'ouverture de la consultation citoyenne.
Voilà, tout le monde pouvait s'exprimer sur les propositions faites dans le projet de nouveau sage. Et normalement, le process devait suivre son cours. Les propositions du nouveau sage avaient été acceptées à la majorité, donc tout semblait aller dans le bon sens.
Mais
en décembre, certains syndicats agricoles, la FDSEA et la coordination rurale, ont bloqué la réunion de la commission locale de l'eau. Et alors, on ne sait pas si ça a un lien, mais bon, seulement trois jours plus tard, le Premier ministre a annoncé un moratoire, donc une pause, sur toutes les décisions liées à la politique de l'eau. Et depuis, le renouvellement du SAGE est à l'arrêt et c'est un scandale.
Et où est-ce qu'il réside ce scandale ?
Eh bien, le scandale déjà, c'est que des syndicats qui ont participé à tout le processus de négociation du SAGE débarquent un beau matin et prétendent qu'ils sont pris en otage par la clé. Et l'autre scandale, c'est que le préfet d'Ille-et-Vilaine aille dans leur sens et bloque la suite du processus. Dans une lettre écrite par le préfet de Bretagne et celui de Loire-Atlantique au président de la Clé, les deux représentants de l'État estiment que le projet du SAGE n'a pas atteint un degré de maturité suffisant. Mais c'est pas du tout à eux de donner leur avis. C'est pas parce qu'ils sont préfets qu'ils peuvent juger que la décision qui a été prise n'est pas la bonne. Le nouveau SAGE a été construit en suivant un processus démocratique qui est inscrit dans la loi depuis 1992. C'est comme ça, c'est légal. C'est pour ça que depuis 3 ans, plus de 70 personnes se sont mises autour de la table et ont trouvé un compromis pour le nouveau SAGE Vilaine, ensemble, démocratiquement. Donc, en entérinant le blocage de la clé, les préfets vont à l'encontre de la loi.
Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. C'est plutôt drôle pour un préfet.
Oui, et le pire dans tout ça, c'est que rien n'est transparent. D'après Eau et Rivières de Bretagne, le moratoire du Premier ministre serait resté à l'état de tweet. Moi, je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le site du gouvernement. Pareil sur le site de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Rien au sujet de la suspension du SAGE. Pareil sur les réseaux sociaux du préfet. Et pourtant, il publie des tweets à l'appel chaque jour.
Mais il faut bien faire quelque chose.
Eh bien, je suis très contente de te l'entendre dire, Julie. Plein de choses ont déjà été faites, des scientifiques Rennais ont publié une tribune, la société civile a organisé des manifs, le président de la région Bretagne, 2 députés d'Ille-et-Vilaine, beaucoup de gens ont appelé à la poursuite du SAGE, mais pour l'instant, pas de réponse. Donc tu vois Julie, c'est pas moi qui suis accro au SAGE Vilaine, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose de grave.
Ok, bon, t'es pardonnée pour cette fois, mais si t'en reparles avant la fin de la saison, je sais pas si je vais survivre.
Bah t'as qu'à appeler le préfet alors, peut-être que ça le fera changer d'avis.
écoutiez le nouveau titre de Sexy Sushi Estafette, enfin plutôt conservé, car le groupe vient d'annoncer la sortie d'un album enregistré il y a 20 ans pour juin prochain. Et l'interview du jour sera menée par Valentine. Tu reçois Camille Robert, chargée d'exposition au 360.
Comment façonne-t-on la direction artistique d'un lieu culturel ? Alors avec moi en plateau, j'ai Camille Robert. Bonjour Camille.
Bonjour.
Tu es chargée de mission pour l'association Bug et chargée d'exposition pour l'espace L'Instantané, qui est situé juste ici, au-dessus de notre tête, hein, au rez-de-chaussée du 360, là où, je le rappelle, on a nos studios à Canal B. L'Instantané est un lieu consacré à l'exposition de travaux plutôt photographiques. Pourquoi le choix de cette forme artistique particulièrement ?
Alors parce que c'est un médium qui est quand même assez important, étant donné que c'est aussi un lieu qui est réservé aux associations et à la valorisation du travail et du tissu associatif, notamment rennais. Ça reste quand même le meilleur médium pour représenter tout ça. Et parce que aussi, on n'a pas tant de lieux que consacrés en fait à la photographie à Rennes. Il y en a quelques-uns qui sont très chouettes, mais ça nous paraissait vraiment important que ça reste aussi au cœur du projet. Et il y a quelques exceptions quand même, mais globalement, ça reste quand même centré sur la photo.
Et vous avez accueilli donc ici, à l'Instantané, une exposition de SOS Méditerranée qui s'appelle « Ils arrivent pieds nus par la mer ». Il y a eu aussi une exposition de Martin Grison qui s'appelle « Plus 2 degrés ». Quelle place l'engagement politique a dans les choix qui sont faits ici ?
Alors moi, ça fait deux ans que je suis sur le poste, mais ça reste de toute façon, en fait, pour chaque personne, en fonction des sensibilités, une question centrale. Et en fonction ensuite des valeurs et de ce qu'on a envie de porter, mais c'est un engagement qui reste au cœur, de toute façon, du lieu et qui est très important pour nous.
Et existe-t-il d'autres critères auxquels doivent répondre les projets pour être exposés ici ?
Il faut que ça soit de la valorisation du travail associatif. En fait, c'est vraiment avant tout un lieu qui est réservé aux associations. Donc c'est vraiment le premier critère et le critère essentiel. Et alors après, ensuite, c'est en fonction des sensibilités de chacun et chacune, on va dire oui, des convictions politiques. En l'occurrence, décharger l'exposition, donc là, en ce moment, c'est moi. Mais c'est comme ça qu'on va décider comment est-ce qu'on expose tel ou tel sujet, telle ou telle personne.
Et justement, du point de vue du processus de sélection, est-ce que toi, tu es libre de dire oui à ce que tu veux, ou est-ce que l'association Bug a également une influence sur ces choix-là ?
Alors, je décide complètement de la programmation qu'il y a dans le lieu, mais par contre, c'est aussi des décisions collectives, dans le sens où je vais en informer aussi mon équipe en amont, en leur proposant tel ou tel sujet, en leur disant est-ce que ça vous paraît cohérent avec le lieu aussi, est-ce que c'est un sujet qui vous paraît intéressant, ou quand j'ai un doute aussi parfois, parce que je connais pas forcément bien toutes les associations, est-ce qu'elles sont alignées avec les valeurs que j'ai envie de proposer dans ce lieu, et donc ça peut arriver que ça soit des décisions aussi collectives.
Et donc on voit que les expositions qui ont lieu ici sont quand même très diversifiées. Comment on fait dans ce cas pour garder une cohérence graphique et une ligne directrice finalement ?
Alors je ne sais pas forcément si justement j'ai envie qu'il y ait une cohérence graphique. Je crois que c'est un peu l'idée. Il y a autant d'associations que d'il y a de sujets à aborder, qu'il y a de photographes avec des esthétiques différentes. Et donc je suis pas sûr d'être forcément dans l'idée d'avoir une cohérence graphique. Ce qui m'intéresse justement, c'est la diversité, à la fois dans la scénographie, à la fois dans les choix proposés, enfin les sujets proposés, et à la fois dans les esthétiques. Donc je pense que justement, il n'y a pas tant de cohérence graphique, et ce qui me plaît aussi dans ce lieu-là.
Donc la diversité est finalement la ligne artistique. On dit que choisir, c'est renoncer. Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas avoir sélectionné certains projets ?
Oui.
Comme quoi ?
Comme j'ai regretté aussi d'avoir sélectionné certains projets potentiellement. Mais il y a certains photographes que j'aimerais beaucoup mettre en valeur. Et il y a certaines choses qu'on n'a pas réussi à, voilà, on n'a pas réussi à trouver forcément le temps de le faire. Il y a des sujets aussi sur lesquels moi j'ai des sensibilités et donc que je vais peut-être davantage valoriser. Mais il y a plein d'autres sujets à explorer que j'aimerais bien, mais sur lesquels peut-être je n'ai pas assez de connaissances. Donc c'est pour ça que je suis ouverte à toutes les propositions. N'hésitez pas à me contacter.
Et ta sensibilité à toi, elle te mène plutôt vers quoi en général ?
Alors moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis impliquée dans une association qui s'appelle Les Impudentes, qui ont fait de la prévention au VSS dans les milieux festifs. Et donc c'est vrai que ce sujet-là de l'égalité aussi, de la lutte contre les discriminations, et voilà, plus globalement, en fait, de l'égalité, oui. C'est assez au centre de mes préoccupations, mais on a aussi, par exemple, on m'a proposé des expositions davantage sur, par exemple, on a eu l'agriculture biologique, c'était très intéressant aussi. Enfin voilà, ça reste très très varié. Là, on va avoir par exemple une exposition sur la Corée qui va avoir lieu en 2027 normalement. Enfin, ça, voilà, il y a plein de sujets à aborder et en fait, je trouve ça assez chouette justement de pouvoir sortir un petit peu de mes carcans ou voilà, de pouvoir découvrir d'autres problématiques.
Je comprends, ça attise la curiosité en tout cas. Et une fois les œuvres choisies, du coup, tu interviens comment toi sur la scénographie d'expo ?
Alors, globalement, moi, j'interviens donc au montage, démontage, à la communication. Et donc, la scénographie, en fait, ça va dépendre. Je vais demander, soit on la co-construit ensemble, ce qui est souvent le cas, soit les personnes vont m'envoyer leur scénographie en amont. Et puis, je vais pouvoir leur dire aussi, parce qu'au-delà de l'aspect scénographie et de l'aspect artistique, il y a aussi l'aspect sécurité du lieu. Est-ce que ça respecte les accès PMR ? Est-ce que ça respecte les conditions incendie ? Voilà, c'est des choses toutes basiques. Mais globalement, souvent, c'est de la... On co-construit ensemble. Et comme moi, je connais bien le lieu aussi, l'éclairage, la manière dont on peut agencer, j'accompagne en fait beaucoup à ce niveau-là. Mais ça reste les personnes qui décident quand même.
Et on revient sur ce sujet dans quelques minutes pour continuer à parler d'identité artistique. Mais tout de suite, c'est une pause musicale. Écoutez le titre Tokyo Reggae de Masayoshi Takanaka sur le 94 FM. Il est 12h33 et vous êtes toujours dans 3 en 1. Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Robert, chargée d'exposition à la salle L'Instantané au 360.
Camille, y a-t-il des partenariats historiques qui reviennent chaque année et qui façonnent aussi l'identité du lieu ?
Absolument. Alors on a un grand partenariat qui dure depuis des années, donc avec le festival Travelling, et donc on propose en lien avec la programmation, donc chaque année étant c'est une ville différente, on propose une exposition en lien justement avec la ville qui a été choisie. Aussi, donc on a le festival GLAZ, le festival international de photographie qui a été créé, donc là c'était la deuxième édition, tous les deux ans. Et donc pareil, voilà, on propose en lien avec les thématiques proposées chaque année, un photographe, voilà, une série de photos. Et aussi, depuis quelques années, on a un partenariat avec le Master Magémie, qui est un master de scénographie d'exposition de Rennes 2. Et donc, tous les deux ans, en fait, on laisse la salle d'exposition à disposition des étudiants pour qu'ils puissent créer toute leur exposition. Voilà, donc c'est les trois gros partenariats. On travaille quand même souvent aussi avec des festivals. Et j'aimerais bien pouvoir recréer d'ailleurs davantage de partenariats parce que je trouve ça toujours assez chouette de pouvoir valoriser des artistes ou des associations dans le cadre d'un festival.
Bon, le message est passé en tout cas, si oui. Jamais. N'hésitez pas à contacter Camille du 360. Et alors, comment ça se passe un partenariat avec des festivals comme Travelling par exemple ? Est-ce que c'est eux qui font totalement la programmation et qui te proposent d'héberger une des expositions ? Est-ce que c'est co-construit ? C'est toi qui choisis un artiste qui rentre un petit peu dans la thématique de l'année ? Comment ça se passe ?
Alors moi là, depuis, donc ça fait deux ans que je suis sur le poste, comme je le disais, dans les deux cas de figure, donc les deux éditions du festival que j'ai eu à gérer, j'ai fait des propositions à Fabrice Bassemond, donc le directeur du festival, et donc voilà, ça a été accepté dans les deux cas, mais ça peut être aussi des échanges. J'ai aussi voilà, souvent des liens avec les éditions de juillet, dont on va peut-être parler après, donc qui est l'exposition actuelle, et qui vont aussi me conseiller parfois, parce que c'est pas toujours facile en fait, en fonction des villes, de trouver des artistes qui ont travaillé sur telle ou telle ville ou tel ou tel pays. En fait, c'est parfois un peu, ça peut être un peu niche. Donc voilà, je suis aussi conseillée parfois, ou même parfois même Travelling, l'équipe de Travelling peut donner leur avis ou faire des propositions.
Oui, te donner des petites orientations au moins de recherche. Justement, tu nous parles des éditions de juillet. Ils ont une exposition en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui. Alors historiquement, donc le lieu L'Instantané, il a été créé en 2015. Et en fait, à l'origine, ils nous aidaient beaucoup. En fait, on collaborait beaucoup avec eux. C'est des gens qui ont, dans l'histoire du lieu, une place très importante. Et donc, c'est une maison d'édition rennaise, mais spécialisée dans la photographie. Et ils font des livres absolument incroyable. J'aime beaucoup leur travail et en plus humainement c'est des personnes qui sont très chouettes. Et donc on avait un petit peu, voilà, je leur ai fait la proposition un peu de consacrer une exposition, pas vraiment rétrospective, mais l'idée c'était un petit peu davantage de recréer leur atelier d'édition. Voilà, donc ce qu'on a voulu faire, l'exposition, si vous avez eu l'occasion de la voir, on a mis, voilà, il y a beaucoup de mobilier, on a voulu recréer voilà, les bureaux de travail, il y a des planches d'impression, donc il y a aussi des photographies originales, des superbes tirages, et des livres qu'on a mis un peu partout, forcément. Et donc c'est une exposition qui va durer jusqu'au 19 juin et qui est vraiment très chouette et que voilà, je vous invite à découvrir. Et on a plein de photographes qui sont exposés pour le coup. Et donc voilà.
Et c'est vrai que j'y suis passée au vernissage. Je vous invite à aller y faire un tour, puisqu'en effet, c'est très riche, de très beaux objets éditoriaux notamment. Et puis une petite vue aussi sur les coulisses, en effet, d'une maison d'édition. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est prévu à la suite des éditions de juillet ?
Alors, donc elle se termine le 19 juin. Et ensuite, on va avoir une exposition qui va être assez courte, qui s'appelle Les cabanes de Vezin, d'un photographe qui s'appelle Emmanuel Blivet, et donc qui va avoir lieu dans le cadre d'un projet qui est mené par le projet IRIS-E, donc de l'Université de Rennes. Et donc on va accueillir au 360 une projection d'un documentaire sur la Cellune. Et donc, en fait, c'est un lieu qui est donc, à côté du Mont-Saint-Michel, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a eu un barrage qui a été démantelé. Il y a quelques années, et donc à l'origine, quand ce barrage avait été construit, ça avait complètement changé le paysage. Et donc ça avait créé des lacs artificiels, et notamment au niveau de Vezin, où des personnes avaient installé des petites cabanes de pêcheurs. Et c'est une des premières fois où en fait on a voulu faire de la restauration écologique finalement, donc le barrage a été supprimé, mais c'est posé la question pour les habitants en fait du changement du paysage, et donc de l'attachement que les gens ont au paysage. Et donc ça a complètement changer la donne. Il y a des gens qui ont été aussi forcément un peu contrariés. Et donc, il y a ce photographe qui allait faire cette série de photos sur les cabanes de Vezin qui sont très chouettes. C'est assez, assez comment dire, un peu un retour dans le passé. Voilà. Et donc, en parallèle de ce documentaire, on va donc montrer ces photos.
Ce sera jusqu'à quand ?
Ça sera, donc c'est assez court, ça, c'est pour donc, du 23 au 26 juin. Alors, juin, juillet, août, on a potentiellement, donc le lieu ferme, le 360 ferme, donc je ne suis pas encore tout à fait sûre de ce qui va se passer en juin, juillet, août. On a potentiellement un projet de photo avec des élèves de Rosa Parks, parce qu'avec Bug, donc l'association qui admise le lieu, on a un projet d'accompagnement des élèves, et donc peut-être qu'on va avoir ça qui va être exposé. Et ensuite, au mois de septembre, à la rentrée, on a un très chouette projet qu'on mène avec le 4bis. Justement, c'est un partenariat qui a été créé récemment. On va donner l'espace d'exposition à disposition pour un jeune artiste. Et donc là, on a une personne qui va, donc Elisa Roy, qui va exposer une série de photos sur les femmes dans le BTP. Voilà.
Ok, super intéressant comme sujet, et puis ça apporte un petit peu de visibilité aussi à ces professions. Et alors justement, tu parlais de la rentrée, quand est-ce que tu commences toi ta programmation pour la saison culturelle, donc là 26-27
C'est-à-dire en amont, à quel moment je...
Oui c'est ça, quand est-ce que tu commences à réfléchir un petit peu la programmation de l'année d'après, ça se fait au fur et à mesure ou il y a une période où tu te dis là ça y est il faut que j'y aille?
Non, ça se fait vraiment au fur et à mesure, et en l'occurrence ça se remplit très très vite une programmation parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc là par exemple toute ma programmation 2026 est faite déjà, et en 2027 c'est déjà bien bien entamé, donc ça va assez vite. Après c'est justement une réflexion que j'ai actuellement, parce que j'essaie de faire des expositions assez longues, mais peut-être que je vais essayer de réduire un petit peu certains comment dire, créneaux pour pouvoir exposer plus de personnes aussi. Mais ça se remplit très vite au fur et à mesure, ce qui a quand même pas mal de demandes.
Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en tout cas, le lieu est repéré aussi par les artistes pour pouvoir venir exposer. En tout cas, merci beaucoup Camille de nous avoir un petit peu expliqué les coulisses de la création d'une ligne artistique pour un lieu d'exposition donc, qui s'appelle l'Instantané. C'est au 360. Merci beaucoup Camille.
Merci.
Merci Valentine pour l'interview. Je le rappelle, en ce moment, c'est l'exposition L'Aventure éditoriale des éditions de juillet que vous pouvez voir à l'instantané au 360, et elle est en cours jusqu'au 19 juin. Et pour cette fin d'émission, c'est une chronique culture. Manon, tu vas nous parler d'une représentation théâtrale et non pas d'une pièce de théâtre signée Mathieu Létuvet. Tu y as assisté la semaine dernière au Théâtre de la Paillette.
Oui, je suis allée voir À la ligne, une adaptation au théâtre du roman de Joseph Pontus. Diplômé d'Hippocagne et de Cagnes, Joseph Pontus travaillait en tant qu'éducateur spécialisé à Nanterre. À son arrivée en Bretagne, il s'inscrit dans une agence d'intérim et travaille dans différentes usines d'agroalimentaire avant d'arriver à l'ultime étape, l'abattoir. Il meurt en 2021 d'un cancer à l'âge de 42 ans.
Et comme tu avais déjà lu le livre, est-ce que tu t'attendais à quelque chose en particulier ?
En réalité, j'avais du mal à imaginer ce roman joué, surtout par quelqu'un d'autre que l'auteur, parce que c'est pas vraiment une histoire linéaire ce qu'a écrit Joseph Pontus, ce sont plusieurs années de sa propre vie qui s'enchaînent dans cette routine à l'usine. Et ce que j'ai trouvé original, c'est la forme, rien à voir avec une pièce de théâtre classique en acte. Cette représentation ne respecte pas non plus la règle traditionnelle des trois unités, de temps, de lieu et d'action. En fait, on passe une heure à voir défiler la vie d'un homme qui travaille à l'usine sans chute finale, parce qu'une chute, ça voudrait dire qu'il y a une fin, une sortie, et là, il n'y en a pas.
Et cette cadence sans fin, elle représente le travail à la chaîne ?
Oui, en tout cas, c'est la façon dont je l'ai ressenti. C'est l'histoire d'une vie contrainte. Joseph Pontus a fait des études et pourtant, il se retrouve à travailler à l'usine. Comme beaucoup d'autres, pas par choix, mais par nécessité. Cette représentation montre donc la répétition, la chaîne, dans des usines agroalimentaires qui sont toutes les mêmes, l'intérim et puis l'abattoir. Les gestes qui reviennent en boucle et puis les détails qui glacent, des mamelles qui tombent du plafond et qui s'éclatent au sol, toujours dans un rythme effréné. Et ce rythme, il prend place sur scène. À certains moments, le texte est dit très très vite, on le comprend à peine. La chaîne, la répétition, sans cesse, le langage est lui-même pris dans la cadence. Parfois, au contraire, il y a des blancs, longs, rares, qui représentent les courts moments de respiration pendant les pauses ou quand Joseph Pontus rentre chez lui. On est vraiment embarqué dans cette répétition, dans son rythme de vie. Et c'est ce rythme aussi qu'on retrouve quand il parle du chant.
Et justement, à quoi est-ce qu'il sert ce chant dans son quotidien ? Est-ce que c'est pour l'occuper ? Est-ce que c'est pour oublier la cadence du travail ? Ou pour couvrir le bruit des machines peut-être ?
C'est un peu pour passer le temps que les ouvriers et ouvrières chantent à l'usine, comme pour respirer. Mais des fois, c'est tellement speed qu'ils et elles n'ont même plus le temps de chanter.
Et dans cette représentation, il n'y a pas vraiment de dénouement ?
Non, et on n'en attend pas vraiment d'ailleurs. Et ça fonctionne, on ne suit pas une histoire, on est amené à ressentir un état. Et ce qui reste à la fin de cette représentation, c'est cette impression d'usure continue. C'est cette cadence incessante, cette répétition. On ne l'entend pas seulement, on la voit aussi avec un super jeu de lumière. Puisqu'à la fin de la représentation, on ne voit plus que l'ombre du comédien à travers une toile. Il bouge de manière saccadée, comme multiplié, comme plein de gestes qui se suivent. La répétition, encore et encore, il devient lui-même la cadence.
Merci Manon pour cet avis éclairé. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ce spectacle et que cette chronique vous a intrigué, vous pouvez évidemment lire le roman originel de Joseph Pontus. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Camille Robert, chargée d'exposition à la salle L'Instantané, d'avoir été notre invitée. Merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission. Manon, Nina, Valentine. Petite mention spéciale à Pierre Maël, qui était à la technique pour cette première édition en direct. Avant de se quitter, je vous indique que vendredi 3 en 1 vous proposera un format spécial, 30 minutes de documentaire sur un jumelage tout récent entre Rennes et la ville de Diyarbakir au Kurdistan. C'est un reportage long signé Manuel Perreux, journaliste et bénévole à Canal B. Une émission à retrouver à 12h15 vendredi et samedi en rediff à 8h15. J'espère que cette émission vous a plu, merci de l'avoir suivie. Si vous voulez la réécouter, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr. Bonne journée à vous.